Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le ministre en charge des Affaires étrangères appelle particulièrement les opérateurs œuvrant dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme à s'organiser pour tirer pleinement profit de la présidence de l'Union africaine par le Burundi de février 2026 à février 2027. Et l'argument, excusez, l'argument avancé par le président de la République, selon lequel c'est le manque de patriotisme qui justifie la fuite des Serbes burundais, n'est pas du tout convaincant. Réaction du président du syndicat du personnel enseignant, vous l'entendrez dans ce journal. Et l'organisation Parole d'Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités encourage le ministre des Finances dans sa quête de transparence budgétaire et demande à la Cour des comptes de diligenter une inspection. Voilà pour le sommaire.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Vous voudrez bien nous excuser pour ces désagréments. Je reprends les grands titres. Le ministre en charge des Affaires étrangères appelle particulièrement les opérateurs œuvrant dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme à s'organiser pour tirer pleinement profit de la présidence de l'Union africaine par le Burundi. Ça sera de février 2026 à février 2027. Et l'argument avancé par le président de la République, selon lequel c'est le manque de patriotisme qui justifie la fuite des Serbes burundais, n'est pas du tout convaincant. Réaction du président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi, qui explique que cela ne cherche que le mieux offrant en termes de conditions salariales. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités encourage le ministre des Finances dans sa quête de transparence budgétaire et demande à la Cour des comptes et à l'inspection générale de l'État d'enquêter sur les révélations du ministre Alain Ndikumana concernant l'utilisation des fonds destinés à l'achat des fertilisants. Voilà pour le sommaire.
Isanganiro, la radio de l'avenir.
Le ministre des Finances affirme qu'il subit souvent des menaces de la part de ceux qui sont contre la transparence budgétaire, mais qu'il n'en a pas peur pour autant du moment qu'il lutte pour une cause valable. Le président du Sénat l'encourage et lui promet le soutien de cette institution, soulignant que pour réussir le combat contre les détournements, les malversations et infractions connexes, les hauts responsables doivent prendre le devant. C'était ce samedi à Gitega, dans une séance d'analyse et adoption de la loi budgétaire révisée pour l'exercice 2025-2026. Gérard Nibigira.
Le ministre des Finances, Alain Ndikumana, fait savoir qu'il subit souvent des menaces de la part de ceux qui détestent sa rigueur en matière de gestion transparente des fonds publics et de la protection de la chose de l'État. Il a dit cela ce samedi à Gitega quand il répondait aux questions des sénateurs lors de la séance d'analyse et adoption de la loi budgétaire révisée pour l'exercice 2025-2026, deuxième partie. Ainsi donc, répondant à la question d'un sénateur de mettre fin aux grognes de la population suite au manque des engrais et urée de l'entreprise FOMI, le ministre des Finances a répondu que FOMI complique les contrats en exigeant des fonds additionnels à ceux lui octroyés précédemment. Il parle de la demande récemment formulée par FOMI de 50 milliards et de 20 milliards de francs qui lui seraient donnés respectivement par l'État et la population. Ces fonds étant relatifs au surplus de 17% d'engrais qu'il a fourni à l'État. Pour le ministre Alain Ndikumana, il est inconcevable de fournir les des marchandises supérieures aux quantités contractuelles et à la question d'octroyer l'argent aux agriculteurs qui ont vendu du maïs à la Nagesa sans être payés, le ministre a confirmé l'existence de 2 milliards de nos francs à leur donner. Il a néanmoins regretté le manque de transparence dans la gestion des fonds de la Nagesa, comme le paiement des frais de transport du maïs et de location de hangars de stockage du maïs sans contrat ni NIF. Entre autres exemples, il parle de quelqu'un à qui Anagessa a donné les frais de transport du maïs de 300 millions de nos francs sans contrat ni NIF. En outre, il révèle qu'il y a deux rapports différents sur l'état du stock du maïs de la Nagesa, ce qu'il considère comme manquement grave. Et en dehors de cela, il dit que les responsables de la Nagesa ont transmis une note au chef de l'État l'accusant de perturber les activités de la Nagesa au moment où lui souligne que son seul souci est la transparence dans la gestion des fonds de la Nagesa. Suite à tout cela et tant d'autres encore, le ministre des Finances affirme qu'il subit souvent des menaces, mais il précise qu'il n'a pas peur de mourir pour la vérité et il est confiant qu'il n'en mourra pas. De son côté, le président du Sénat, Gervais Ndira Kobucha, l'encourage et lui promet le soutien du Sénat, signifiant que le combat contre les détournements des fonds publics doit être piloté par les hauts responsables de l'État et qu'il doit y avoir des leaders qui prennent le devant pour changer une société. Il lui indique que les menaces ne manqueront pas, mais que son combat vise la protection des fonds publics et de la population. Depuis Gitega, Jani Bigira pour Radio Isanganiro.
Merci Gérard. Et l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et l'évolution des mentalités par SEM encourage le ministre des Finances qui rend public des irrégularités constatées dans l'utilisation des fonds publics, notamment pour l'achat des fertilisants. Faustin Dikoumana, directeur national de cette organisation, souhaite que les institutions habilitées, dont la Cour des comptes et l'inspection générale de l'État, se saisissent de ce dossier pour des enquêtes approfondies, mais sans trop d'espoir que cet appel soit suivi des faits. Écoutez-le.
Cette situation, on l'avait dénoncée très récemment, où on continue à observer une allocation budgétaire de plus de 350 milliards de francs et pour la subvention des engrais au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, un montant énorme, alors qu'en contrepartie, on continue à observer l'insuffisance de la distribution des engrais, en qualité et en quantité. C'est plus de 60% du budget du ministère de l'Agriculture. On constate une collision toujours entre les hauts cadres de l'État et certains opérateurs économiques qui se disent puissants, qui se disent des opérateurs économiques avec influence, qui entrent en collision avec ces hauts cadres de l'État. Et on voit des ministres qui vont défendre des dossiers au Conseil des ministres, non pas pour l'intérêt général, pour l'intérêt supérieur de la nation, mais pour leur propre intérêt de donation réciproque promise dans le cadre de cette collision avec ces opérateurs économiques. Normalement, c'était un dossier ouvert qui exigeait des enquêtes minutieuses. Les institutions devraient jouer leur rôle. L'inspection générale de l'État, la Cour des comptes, la justice devaient se saisir des dossiers et faire une enquête depuis, par exemple, 2021 pour voir réellement les relations entre cette entreprise et l'État, comment c'est exécuté. Parce qu'il y a anguille sous roche. Il ne faut pas qu'on trompe toujours dans la même situation comme les dossiers Mahanda, Kadjeke, des devises qui sont dénoncées, qui ne sont pas suivies des faits. Je crois quelque part qu'il faut prendre des responsabilités, rectifier le tir. Les plus hautes autorités, en l'occurrence la présidente de la République, doivent sévir contre ce comportement véreux qui est en train de saigner les caisses de l'État. Je crois quelque part qu'il faut prendre ses responsabilités, sinon la situation est en train d'évoluer négativement et de façon dangereuse. Mais aussi, on devrait profiter de l'occasion pour encourager et féliciter le ministre des Finances de continuer d'aller de l'avant pour dénoncer de tels faits, de tels actes.
Faustin Dikoumana, directeur national de l'organisation PARSEM. Je vous l'avais dit dans les titres, les opérateurs économiques du secteur privé au Burundi sont appelés à bien organiser leurs activités durant toute la période pendant laquelle le Burundi assurera la présidence de l'Union africaine de février 2026 à février 2027. Lors d'une rencontre avec ce lundi, Edouard Bizimana, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration régionale et de la coopération au développement, leur a demandé de profiter pleinement de cette opportunité, en particulier ceux qui œuvrent dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme, pour tirer d'importants bénéfices des nombreuses réunions et événements qui se dérouleront au Burundi. Suivez-le dans cette traduction de Jean-Marie Mayong.
Les informations reçues il y a quelques jours montrent que nous avons accueilli de nombreux visiteurs lors du comité technique spécialisé et du dialogue continental tenu au Burundi. J'ai même entendu dire que les hôtels étaient submergés, ce qui est une bonne chose. Cela n'était que le début, car durant toute la période d'une année pendant laquelle le Burundi assurera la présidence de l'Union africaine, il y aura beaucoup de réunions organisées dans le pays. Ainsi, vous, opérateurs économiques, avez un rôle important à jouer, que ce soit dans les domaines de l'hôtellerie, du tourisme, du transport et d'autres secteurs. De nombreuses opportunités vont se présenter. Ce que nous vous demandons, c'est de prendre cette situation en main, car ce sont des ouvertures qui s'annoncent et dont vous devez profiter. À titre d'exemple, il est arrivé que nos hôtels soient complets et que les invités soient obligés de se tourner vers de petits hôtels. C'est pourquoi il est très important d'insister sur la qualité des services rendus. Cela permet de donner plus de valeur à vos produits et d'honorer le pays, car ces visiteurs apprécieront les services offerts. Les opportunités sont nombreuses. Les réunions et les visiteurs qui viendront au Burundi apporteront des devises, ce qui sera un gain pour nous tous. Vous, en tant qu'opérateurs économiques du secteur privé et hommes d'affaires, comprenez bien que c'est une grande occasion qui vous est offerte pour bien vous préparer. Je sais que certains d'entre vous sont très dynamiques dans les affaires. Nous souhaitons donc que vous ne soyez pas en retard afin de ne pas perdre ces opportunités.
Valoriser les diplômes des citoyens et appliquer la politique d'équité salariale sont parmi les mesures qui permettraient d'éviter que les intellectuels burundais continuent à s'exiler à l'étranger. Réaction du président du syndicat du personnel enseignant de l'Université du Burundi à la suite de l'intervention du chef de l'État lors de la conférence publique de vendredi dernier, au cours de laquelle il a déclaré que ceux qui partent manquent de patriotisme. Désiré Nissoubi, il s'inscrit en faux contre cet argument facile et estime que ces départs ne s'expliquent que par la recherche de meilleures conditions salariales. On l'écoute.
Car le président de la République a dit que généralement, les gens qui vivent à l'extérieur, d'ailleurs c'est leur droit, c'est pas question de manque de patriotisme, c'est juste aller chercher ce qui est mieux ailleurs. Pourquoi ? Il faut comprendre que normalement, si vous avez généralement un trésor, il faut bien conserver votre trésor. Sinon, le trésor risque d'être volé par des gens qui sont attentionnés. Alors, nous avons dit que, compte tenu des moyens minables que généralement les gens qui ont des diplômes élevés et reçoivent, je remarque carrément que, franchement, c'est question de service, c'est pas question de ne pas aimer le pays, donc ceux qui ne sont pas partis. Alors, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face et généralement, c'est pas le moment d'échapper à des questions trop visibles. Et c'est pas question de penser, de détourner le problème. Quand on détourne le problème, on ne trouve même pas de solution. Maintenant, j'ai réclamé que généralement, on puisse y avoir les états généraux des finances publiques. Comment on utilise? Nous, on veut qu'on soit clair sur l'utilisation des finances publiques pour la bonne marche des activités dans ce pays. Nous avons proposé, contrairement franchement à ce que je peux penser, je ne peux pas franchement dire le traitement qu'on reçoit. Dans les institutions publiques, à l'Université du Burundi, à l'école normale supérieure, on a remarqué que par ailleurs, plus on étudie, plus on est misérable. Là quand même, il faut qu'on ose le dire. Pourquoi dans ce pays, les gens qui ont des diplômes élevés ne sont pas bien traités? Si on dit équité salariale, on a beaucoup expliqué les notions de part indiciaire, part emploi, et ainsi de suite. Mais part indiciaire, c'est le diplôme. Mais pourquoi généralement, payé dans ce pays, on ne tient pas compte des diplômes? On peut sortir en baccalauréat à l'Université du Burundi, mais quand il va présenter, il ne présente même pas, quand ils vont déposer les rapports, ils vont toucher un salaire qui est supérieur à celui que généralement les enseignants reçoivent.
Désiré Nissoui, il est président du syndicat du personnel enseignant de l'université du Burundi. Des jugements de justice ne sont pas rendus dans certains coins du pays, entravés par l'implication de certaines autorités de l'exécutif ou de la police. Ceci a été dénoncé vendredi dernier au chef-lieu de la commune Mourambia, au cours d'une conférence publique du chef de l'État. Vianney Ndayisaba, représentant légal de l'association Aluchoto, a dans son côté déclaré que certaines associations de recrutement de la main-d'œuvre pour l'étranger abusent de leur autorité en exigeant la moitié du salaire perçu par le recrue, sous peine de sanctions à son retour au pays. Le président de la République demande aux instances d'habilité de prendre des mesures qui s'imposent. Évariste Nzikobanyanga.
Le représentant légal de l'Aluchoto s'appuie sur l'un des exemples des jugements qui n'ont pas été rendus suite à l'excès de zèle de certains dirigeants qui passent outre mesure.
Il y a une femme de Rubirizi qui a gagné le procès. Elle vous a saisi en 2020. Vous avez demandé qu'elle soit rétablie dans ses droits. Mais votre appel n'a pas été entendu. Le dossier est resté en suspens jusqu'aujourd'hui. Les dirigeants zélés ont ensuite morcelé la propriété de cette femme. Les constructions sont en cours et parmi ceux qui se sont arrogés le pouvoir de s'installer dans cette propriété figurent les ministres sortants et un député sortant qui a une porcherie sur place. Pour ne citer que cela.
Vianney Ndayisaba, représentant légal de cette association qui milite pour les droits humains, ne s'arrête pas là. Il dénonce les associations qui recrutent ceux qui vont prester à l'étranger, qui exigent 50% sur le salaire perçu mensuellement par chaque individu et que ceux qui n'honorent pas cet engagement se voient clandestinement détenus. À cette question, le chef de l'État ne passe pas par quatre chemins pour demander aux instances habilitées de faire leur travail. Et à propos des jugements qui ne sont pas rendus suite aux ailes de certains dirigeants, le chef de l'État a indiqué que le gouvernement compte étendre l'instance judiciaire jusqu'à la base pour que les décisions de la justice soient prises en compte.
Évariste Nzikobanyanga. Justice transitionnelle à présent. Le manque de matériel et l'insuffisance du personnel constituent des défis majeurs qui entravent le bon fonctionnement de la commission vérité et réconciliation dans la province de Burunga. Le seul agent de cette commission ne peut couvrir quatre communes pour recevoir et traiter les dossiers relatifs aux conflits fonciers et aux autres biens. Certains habitants déplorent la difficulté d'accéder au bureau de la CVR et plaident pour que la commission se rapproche davantage des citoyens jusque sur les collines. Clovis Niyongourou.
Les agents de la commission vérité et réconciliation CVR en province de Burunga sont en nombre insuffisant pour faire face aux missions qui leur sont confiées, notamment la réception des dossiers relatifs aux conflits fonciers et à d'autres biens. Selon l'invoqué Bernard, le vice-représentant de la CVR dans cette province, la situation est particulièrement difficile. Il explique être le seul agent chargé de recevoir ces dossiers dans quatre communes à savoir Makamba, Musongati, Nyanza et Rutana. De leur côté, certains citoyens dénoncent les difficultés que cette insuffisance de personnel leur cause. Ils indiquent être contraints de se déplacer jusqu'au bureau de la CVR pour rencontrer l'unique agent disponible. Ces citoyens demandent ainsi à la commission de se rapprocher davantage des collines afin de faciliter l'accès de la population à ces services. Le vice-représentant de la CVR en province de Burunga espère qu'un renforcement du personnel sera bientôt effectif. Il souligne également le manque de matériel adéquat, notamment d'ordinateurs indispensables pour l'archivage et la conservation des dossiers récits. Au niveau national, la secrétaire générale de la CVR, Léa Pascazine Zigamasabo, reconnaît que le personnel de la commission demeure insuffisant. Elle précise toutefois que, malgré cette contrainte, les agents en place continuent d'apporter leur assistance aux citoyens.
Dans la province de Burunga, la CVR a quatre représentants commerciaux. L'un se trouve à Makamba, l'autre se trouve à Bururi et deux autres à Rumonge. Et le responsable des quatre se trouve à Rumonge. Avoir le cahier de charge de ses représentants provinciaux, ils reçoivent les doléances des gens les enregistrent, donnent quelques orientations, mais ne prennent pas de décision définitive. Ils donnent à la CVR des avis consultatifs et c'est la CVR qui a le droit de prendre l'avis délibératif.
Selon Nvoki et Bernard, plus de 1500 dossiers liés au conflit foncier et à d'autres biais ont déjà été enregistrés entre les mois d'août et d'octobre dans les quatre communes de Makamba, Musongati, Nyanza et Rutana.
Radio Isanganiro, chronique sport.
Le match de rugby est officié par trois arbitres principaux, mais pour les phases finales, deux assistants supplémentaires sont nécessaires. Gérard Ndikuriyo, secrétaire général de la Fédération de rugby du Burundi, explique que pour qu'un arbitre puisse prester lors des compétitions internationales, il doit détenir une certification de niveau 3 délivrée par des experts internationaux après avoir suivi une formation spécialisée. Cette chronique sport est signée Jean-Marie Vianney Gendakouman.
Dans l'arbitrage des matchs de rugby, il y a un arbitre principal positionné au centre du terrain. C'est lui qui prend des décisions finales, assisté de deux arbitres de touche appelés juges de ligne, dont le rôle est de signaler à l'arbitre central les sorties de balle et de dénoncer les comportements anti-sport des joueurs. Explication de Gérard Ndikuriyo, secrétaire général de la Fédération burundaise de rugby.
Généralement, c'est trois. Il y a l'arbitre central, il y a les arbitres assistants, les deux, et l'arbitre central, c'est le maître du jeu. C'est lui qui décide. Mais les juges ont généralement des tâches. La première tâche, c'est de signaler à l'arbitre que la balle est sortie. La deuxième tâche, c'est qu'il doit signaler à l'arbitre central un joueur qui me conduit. Donc, vous voyez, pendant le jeu, il y a un joueur malais qui peut piétiner l'autre, qui peut faire un coup de poing. Là, l'arbitre de touche, il doit rester vigilant à toutes les actions qui peuvent compromettre le jeu.
Il précise également que les arbitres doivent bien maîtriser les règles qui régissent ce sport et qu'ils exercent leur métier en utilisant un langage technique spécifique au rugby.
On doit maîtriser les règles, on doit maîtriser les gestes utilisés parce qu'au rugby, ce qui est important, c'est arbitrer tout en parlant. L'arbitre de rugby, il informe même celui qui est en orge, il ne doit pas être puni. L'arbitre communique que l'individu est en orge. S'il reste en orge, il doit être puni. Sinon, l'arbitre est là pour prévenir. S'il voit qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal, il doit prévenir avant.
Lors des finales, le nombre d'arbitres passe à 5 avec l'ajout de deux juges d'un but chargés de surveiller les zones d'un but où les essais sont marqués.
J'ai dit que ça doit être 3, mais vous allez voir que dans beaucoup de finales, surtout au rugby à 7, on met deux autres pour surveiller les arbitres. Donc, le rugby peut être arbitré par 5 arbitres. Donc, l'arbitre central, les deux juges et les deux juges d'arbitre. Donc, ça peut être à 5. Et généralement, c'est 3. Et ces deux tâches pour l'arbitre assistant, ça ajoute aussi voir si la balle est passée entre les balles transversales. Mais il peut encore aider dans d'autres choses, mais ce n'est pas son rôle. Mais pour la bonne marche du jeu, il peut aider.
À cela s'ajoutent les officiels de table, responsables de la notation des points et du chronométrage pendant le match. Dans les pays développés, un superviseur est aussi désigné pour évaluer la performance des arbitres durant les rencontres. Gérard Ndikuriyo rappelle qu'un arbitre ne peut arbitrer un match international que s'il a suivi une formation spécifique de niveau 3 délivrée par des experts internationaux à rugby. Il précise au Burundi que la formation commence avec le niveau 1 qui constitue la base pour progresser dans cette carrière d'arbitrage de rugby.
Pour être arbitre international, juste ici, on ne forme que le niveau 1. On a des formateurs ici qui peuvent former au niveau 1 sans recourir aux experts internationaux. Jusqu'à maintenant, pour être arbitre niveau 2, on doit faire recourir aux experts internationaux, surtout de rugby Afrique ou de World Rugby. Pour être arbitre international, donc le niveau est international, mais c'est juste aspirant. Le niveau 2, il peut arbitrer international, mais ici dans la région. Parce que c'est juste pour voir s'il peut aller jusqu'au niveau 3. Parce que l'arbitre international confirmé, c'est au niveau 3.
Dans la prochaine chronique sportive, Gérard Ndikuriyo prévoit expliquer en détail les conditions nécessaires requises pour devenir un arbitre officiel de rugby.
Et ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.